demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Nous sommes le 2 mars, nous reviendrons sur la manifestation des policiers municipaux hier sous les fenêtres de Grégory Doucet. La zone à faible émission, la ZFE, le Grand Lyon entend renforcer les alternatives à la voiture. Bruno Bernard réaffirme l'engagement de la métropole également dans sa politique sociale et solidaire pour accompagner cette extension de la ZFE. Le projet de contournement ferroviaire de Lyon refait parler de lui. C'est le ministre chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui en reparle. Une nouvelle station de recharge pour voitures électriques, le long de l'autoroute A6, à Dracé. Emmanuel Wargon en visite hier à Lyon et Villeurbanne. La ministre du Logement participait à une conférence sur la lutte contre le sans-abrisme. Alinéa, le foyer Notre-Dame des sans-abris, et l'OMA en ont profité pour lancer un appel à une prise de conscience. Marion Vézian-Roland, la directrice du foyer Notre-Dame des sans-abris, sera notre invitée.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les policiers municipaux de Lyon ont répondu hier à l'appel de l'intersyndicale à manifester devant l'hôtel de ville. Ils étaient environ une centaine pour dénoncer leurs conditions de travail, le manque d'effectifs, l'attractivité des salaires et plus généralement l'absence de considération de la mairie pour endiguer la fuite de ces effectifs et porter à 365 le nombre de ces policiers municipaux contre 300 actuellement. La ville avait voté en conseil municipal une augmentation salariale de 1 400 € brut par an qui ne concernerait qu'une partie des agents. Selon les délégués syndicaux, cet effort laisse la police municipale lyonnaise loin derrière la plupart de celles de la région. Une délégation de l'intersyndicale a été reçue hier à l'hôtel de ville par plusieurs élus, dont Mohamed Chihi et Laurent Bossetti, élus délégués à la promotion des services publics. Nos revendications ont été entendues, a commenté le porte-parole de l'intersyndicale, qui attend désormais de nouvelles propositions de la part de la mairie. L'Observatoire de la protection de l'enfance de la métropole de Lyon est officiellement lancé. Son objectif, garantir les besoins fondamentaux de l'enfant, mais aussi prévenir et écarter les dangers auxquels il peut s'exposer, maltraitance, prostitution infantile ou encore isolement. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 10 avril 2022, donc dans quelques semaines. Mais pour voter, faut-il encore être inscrit sur les listes électorales? La date limite est fixée à ce mercredi 2 mars en ligne et à vendredi en mairie. En ligne, il faut effectuer la démarche sur le site service-public.fr.
Lyon demain, le média influenceur d'avenir.
La métropole de Lyon a organisé hier soir une réunion de synthèse sur la ZFE, la zone à faible émission. Le Grand Lyon entend renforcer les alternatives à la voiture. Alors que certains citoyens craignent que la ZFE pénalise les revenus les plus modestes, Bruno Bernard a réaffirmé l'engagement de la métropole dans sa politique sociale et solidaire. Avec la tarification solidaire et la gratuité dans les transports, 60 000 habitants de la métropole ne payent plus les TCL. La métropole veut étendre également les aides jusqu'à 70% de la population. La zone à faible émission sera étendue progressivement sur le territoire de la métropole de Lyon, avec l'objectif de bannir les véhicules diesel au 1er janvier 2026. Le projet de contournement ferroviaire de Lyon refait parler de lui. Le ministre chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, vient d'annoncer une nouvelle étape dans ce projet de contournement qui consiste notamment à faire passer les trains de fret par l'Est lyonnais. Les trains remonteraient alors depuis le sud jusqu'à Saint-Pierre-de-Chandieu pour se diriger vers Dagneux en passant par Pusignan et Jonc. L'objectif étant de désengorger un réseau de fret et de marchandises saturé aux abords de Lyon et privilégier un report de trafic de la route vers le rail. Une concertation doit démarrer à l'automne. Une nouvelle station de recharge pour voitures électriques sur l'A6 à Dracé. AP2R s'est rapproché de la société Fastned pour installer des bornes de recharge très puissantes sur les autoroutes. La station de recharge installée à Dracé permet ainsi à 8 véhicules d'être rechargés en simultané. Ces bornes nouvelle génération permettent aux automobilistes d'acquérir jusqu'à 300 km d'autonomie le temps d'une pause sur autoroute. Le tarif standard de recharge est fixé à 59 centimes par kilowattheure.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
Emmanuel Wargon était hier en visite à Lyon et Villeurbanne. La ministre du Logement a participé à une conférence sur la lutte contre le sans-abrisme organisée par la métropole de Lyon. Alinéa, le foyer Notre-Dame des sans-abris et l'OMA, trois acteurs reconnus à Lyon, en ont profité pour lancer un appel à une prise de conscience de l'état d'urgence sociale en matière de logement et d'hébergement. Marion Vézian-Roland est la directrice du foyer Notre-Dame des sans-abris.
On fait le constat ensemble avec nos trois associations que beaucoup de choses existent sur le territoire du Rhône, de la métropole. Il y a une vraie mobilisation à la fois des services de l'État, à la fois des collectivités, de la métropole, des villes, Lyon, Villeurbanne notamment, mais d'autres aussi, autour de ces questions de sans-abrisme et de grande précarité. Donc la mobilisation, elle est là. On observe aussi une mobilisation des entreprises. Et il faut reconnaître que le tissu du territoire est très riche de ce point de vue-là. Des organisations comme l'entreprise des possibles, hein, qui fédère des entreprises au service de ces causes-là, sont très puissantes, hein, très, très efficaces. Pour autant, on se dit qu'il y a sans doute mieux à faire en matière de pilotage des différents projets pour lutter efficacement, plus efficacement encore, contre le sans-abrisme, contre la grande précarité. On observe que à l'occasion de la pandémie, par exemple, et du confinement, quand on a envisagé les choses sous l'angle des objectifs, en disant zéro personne à la rue pendant le confinement, c'est attaché non pas à travailler des moyens, des dispositifs, mais un objectif. Et donc ce pilotage par objectif, il nous paraît devoir être renforcé en faisant travailler ensemble, plus encore qu'ils ne le font, les différents acteurs, les collectivités, les associations, les entreprises, au service de cette cause-là.
Alors vous dites les dispositifs existants sont inefficaces, je vous cite, en matière de lutte contre le sans-abrisme. Faites-nous un petit peu un état des lieux. Où en est-on aujourd'hui? Combien de personnes, par exemple, restent à la rue chaque soir?
Inefficace ou peut-être insuffisamment efficace, c'est peut-être plus comme ça qu'il faut le présenter. Je crois qu'il faut encore une fois saluer la mobilisation de l'État et des collectivités au service de tout cela. Simplement, les faits sont là. Il doit y avoir 8000 demandes d'hébergement auprès de la Maison de la Veille Sociale au mois de janvier 2022. Entre 800 et 1000 personnes appellent le 115 et n'ont pas de solution. Et ça, c'est sans compter ceux qui n'appellent plus le 115, qui se disent qu'ils n'auront jamais de place en appelant le 115. Évidemment, il faut pas tout dénigrer. Simplement, on se dit que il y a sans doute une mobilisation plus large, plus maillée, plus coopérative à mettre en place pour vraiment se dire objectif zéro sans abri sur le territoire métropolitain à une échéance pas trop lointaine. Ça passe par, je l'ai dit, ce pilotage un peu plus collectif des moyens et des objectifs. Ça passe aussi par l'élargissement d'une dynamique qui est à l'œuvre sur le territoire métropolitain à l'initiative de l'État, qui est le logement d'abord, qui part du principe que le logement est un droit et que il ne faut pas attendre que les personnes qui sont à la rue fassent tout le chemin en escalier de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement d'insertion, du logement accompagné avant d'atteindre un logement de droit commun, et qu'il vaut mieux renverser la vapeur et dire on accède à un logement et dans lequel on peut être accompagné en fonction de ses besoins sur l'accès aux droits, sur l'accès à l'emploi, sur l'accès aux soins, etc. Ce qu'on constate évidemment, c'est que les objectifs qui ont été fixés sont atteints, mais qu'il faut sans doute les augmenter pour que sur l'ensemble des communes de la métropole, on ait des offres de logement qui soient accessibles aux personnes les plus précaires. C'est aujourd'hui, bien entendu, pas le cas. Donc, il y a une question d'accès au logement, de mise à disposition de logements. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on ne construit sans doute pas assez de logements, pas assez de logements sociaux, pas assez de logements très sociaux. Et il nous paraît important de partager cette objectif commun d'augmenter les objectifs de construction de logements sociaux pour avoir plus de solutions de sortie pour les personnes qui sont à la rue ou qui sont en hébergement.
Et donc, en quelque sorte, c'est décloisonner, c'est ça, les compétences de chacun, ou chacun travaille encore aujourd'hui dans son coin sans forcément avoir une cohérence?
Chacun mobilise ses compétences. En revanche, en les coordonnant mieux, on peut sans doute être plus efficace. Je reprends l'exemple de ce qui s'est passé au moment de la pandémie, où les services de l'État, ceux de la métropole, les bailleurs sociaux, enfin tout le monde, les associations bien sûr, tout le monde s'est mobilisé et de solutions ont pu être trouvées. Ce qui a été possible au moment du confinement lié à la pandémie devrait être possible aussi quand il n'y a plus de confinement et moins de pandémie. Un autre des sujets qui nous préoccupe, c'est celui de l'activité et de l'emploi. Nous qui gérons des centres d'hébergement savons à quel point l'attente en centre d'hébergement est destructrice pour les personnes, ne leur permet pas de se projeter, ne leur permet pas de se redresser, et c'est souvent lié à une impossibilité d'accéder au travail. Pour autant, et c'est, je crois, comme ça que nous l'avons formulé, nous hébergeons des personnes qui sont précaires, mais qui sont des forces vives et qui, à leur manière, contribuent à faire société, contribuent à la richesse nationale, pour autant qu'on leur en donne le droit. Et donc, notre préoccupation, là, est de trouver des moyens, peut-être des exceptions, enfin, en tout cas, des aménagements qui permettraient de faire accéder au droit de travail des personnes qui aujourd'hui sont sans droit au travail sur le territoire et qui peuplent nos centres d'hébergement et qui pour autant sont en capacité et en volonté de travailler. Cette question de l'activité, elle est vraiment, vraiment importante. Elle pèse très fort dans la désespérance que peuvent connaître un certain nombre de personnes que nous hébergeons. On voit à quel point un accès à un emploi, à une activité rémunérée, quelle qu'elle soit, est vraiment un levier, un catalyseur de voilà, d'une dynamique de remobilisation, de sortie, de reprise en main de son destin. On appelle aussi à ce que on puisse imaginer des solutions, soit de travail type atelier d'adaptation à la vie active, qui sont des dispositifs que nous portons avec le MA et Alinéa, soit de régularisation par le travail, soit de toutes ces choses qui peuvent nous permettre de trouver des solutions et d'accompagner des personnes vers une activité.
Et vous lancez également un appel à la société civile. Comment la société civile peut s'investir dans ce combat?
Alors d'abord en soutenant l'appel. C'est un appel qu'on peut aller signer sur une plateforme qui a été créée pour l'occasion et sur lequel on voudrait un petit peu de visibilité. C'est aussi en se mobilisant chacun là où on peut, en faisant par exemple des recrutements inclusifs, c'est-à-dire en quittant parfois les œillères qu'on peut avoir et en recrutant des personnes qui ne cochent peut-être pas toutes les cases, mais qui ont des capacités de remobilisation, d'adaptation qu'elles ont appris dans des parcours un peu chaotiques parfois, en interpellant aussi les élus, les candidats, parce que c'est aussi comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que en se mettant à trois, ce qui est plutôt une première, et en portant cet appel, on a aussi envie de l'élargir aux associations et aux citoyens qui sont comme nous préoccupés par la précarisation qui grandit dans notre société.
Marion Vézian-Roland, la directrice du foyer Notre-Dame des Sans-Abri, le foyer Alinéa et l'OMA appellent la société civile à les soutenir en signant leur appel sur le site ceconveut2022.org. Installé depuis 1972 à Lyon, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, va quitter d'ici à la fin de l'année sa tour située dans le quartier Grange-Blanche pour le biodistrict de Gerland. La mission du CIRC est de coordonner et de mener des recherches sur les causes du cancer humain, les mécanismes de la cancérogénèse et de développer les stratégies scientifiques de lutte contre le cancer. Le nouveau siège va s'étendre sur plus de 15 000 m². Il pourra accueillir jusqu'à 500 chercheurs. Il permettra de doubler la capacité de la biobanque pour la porter à 10 millions d'échantillons. Ces prélèvements de tissus, de sang, de cellules sont indispensables aux scientifiques pour faire avancer la lutte contre le cancer. Un mot de sport, l'Open de tennis de Lyon. Caroline Garcia l'a remporté face à l'Italienne Camilla Giorgi en 3-7, 7-5, 4-6, 0-6. La Lyonnaise se qualifie donc pour les huitièmes de finale. C'est la dernière Française capable de gagner le tournoi qu'elle a créé après la défaite de Mladenovic un peu plus tôt. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.